Bonjour à toutes et tous, bonjour à chacun, chacune, c'est La Locale, bonjour Karina.
Bonjour Sylvie.
C'est La Locale sur Radio BLV 93.6, La Locale, votre temps d'information locale, comme son nom l'indique, du mardi au jeudi de midi 15 à 13h. Et Karina, au sommaire de ce jeudi 7 janvier ?
Eh bien, au sommaire de cette locale, on va commencer par prendre des nouvelles de la Comédie de Valence avec Marc Lenné, son directeur. Alma Glaise est une des quatre coups de cœur du concours de nouvelles 2020 des médiathèques de l'Aglo, on l'entendra. Et on aura aussi par téléphone Samantha Payette du Snack des Îles pour à emporter, le tout saupoudré d'informations locales comme on en a l'habitude. Et pour terminer, la bonne nouvelle de 2020.
Et comme tu le disais, on retrouve tout de suite Marc Lenné. Bonjour Marc.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, d'abord, meilleurs vœux.
Merci.
Bonne année.
Merci. Et à toutes et tous, bien sûr, on se les souhaite meilleurs, ces vœux, quoi qu'il se passe. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe du côté de la Comédie de Valence qui, malgré l'empêchement, continue à vivre, à créer et à partager avec plusieurs propositions, que ce soit la Gazette, les ateliers, les résidences de création. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des murs de la Comédie en ce moment?
Alors, à l'intérieur des murs même de la Comédie,
il y a des ouvriers
qui continuent à casser des murs et en bâtir d'autres. Donc ça, c'est plutôt joyeux parce que effectivement, la crise sanitaire n'a pas empêché le grand chantier de la Comédie de se prolonger. Et on espère donc pouvoir, en tout cas si les conditions sanitaires le permettent, ouvrir à la date prévue à la fin du mois d'avril. Mais partout, dans les autres salles de la Comédie, mais aussi partout en France, la Comédie poursuit son activité de création. Et moi-même, par exemple, je suis en répétition actuellement à Rouen, au CDN de Normandie-Rouen, qui m'accueille, puisque je suis hors les murs, pour que je puisse mettre en scène ma prochaine création qui s'appelle Nostalgia Express, une création que je présenterai à Valence seulement la saison prochaine, toujours pour à cause de ces travaux. C'est une création grand plateau, c'est un spectacle grand format, comme on dit. Mais il y a plusieurs autres équipes, un peu partout en France, encore une fois, qui continuent de créer pour pouvoir présenter, quand nous le pourrons, ces spectacles aux spectateurs. Mais effectivement, vous l'avez nommé aussi, on a lancé le premier numéro de ce qui s'appelle la Gazette de la Comédie de Valence, et qui est un petit dépliant, c'est un format quand même modeste, mais c'est un petit dépliant qui contient énormément de choses, et notamment dans ce premier numéro, un dossier consacré aux artistes femmes et à la notion de courage au féminin. Le courage, vous le savez, est une notion, on va dire, dans l'imaginaire collectif qui est grand temps de changer, qui est souvent associée aux hommes,
masculin,
qui est une
ouais.
espèce de vertu masculine, de valeur masculine. Et donc, on a voulu comme ça interroger les créatrices associées à la Comédie de Valence et leur demander ce mot de courage résonnait pour elles. Et il y a un très joli dossier qui a été mené par Aurélie Charron, qui apporte comme ça des réponses toutes singulières et passionnantes, de Thune Dédéac, Alice Zeniter, Aurélie Alichère, enfin voilà, et Penda Diouf. Donc ça, c'est le premier numéro de la Gazette. Il y en aura trois par saison, a priori, et toutes ces gazettes auront comme ça un dossier central qui viendra faire résonner une thématique qui est, euh, qui est propre à plusieurs spectacles présentés pendant la saison de la Comédie de Valence. Il y a d'autres rubriques, évidemment. Il y a des rubriques création. Il y aura un portrait aussi à chaque fois consacré à un des artistes associés pour qu'on puisse, que les spectateurs puissent les découvrir. Il y aura des petites annonces, qui est une espèce de petit encart un peu ludique comme ça, et puis un édito que j'écrirai a priori systématiquement et dont je voudrais qu'il puisse aussi permettre au public de découvrir à chaque fois un des membres de l'équipe de la Comédie de Valence dans un dialogue que je pourrais avoir, un dialogue plus ou moins fictif que je pourrais avoir avec lui, ce qui permettra aussi de à la fois de témoigner de mon admiration de cette équipe et en même temps au public de comprendre peut-être un peu plus ce que chacun fait au sein de la Comédie de Valence. Donc c'est un... Et il y a une chose importante aussi, pardon, il y a un poster central, c'est-à-dire que le dos de ce dépliant, qui a un format A4 au départ, quand on le déplie complètement, on a un poster qui est une œuvre unique, là en l'occurrence signée par les graphistes de la Comédie, mais on invitera des plasticiens et des peintres, des dessinateurs à nous faire des propositions pour chaque nouveau numéro.
Alors vous disiez effectivement l'édito, c'est Malika qu'on découvre dans cette première gazette, et c'est Sylvia Costa qui est le portrait d'artiste qu'on trouve au dos de la gazette. Et alors la petite annonce, elle est, je vais vous la lire parce que c'est assez court. Jeune directeur de CDN dans l'attente de retrouver le public, fraîchement nommé à la tête d'un théâtre subventionné, auteur, metteur en scène, la quarantaine, enthousiaste et créatif, cherche public fervent pour partager art dramatique et plus encore si affinité, littérature, musique, art plastique, le tout dans le respect des règles sanitaires, évidemment. Voilà la petite annonce de cette première gazette. On tente toutes et tous de maintenir le sourire au travers de ce qui est de cette épreuve qu'on vit, et vous d'autant plus les soi-disant non essentiels. Pour être un petit peu plus sérieux et puis peut-être un petit peu plus poil à gratter, comment ça se passe malgré toute cette envie, malgré effectivement cette ébullition permanente qui anime l'équipe? Il y a une fatigue qui s'installe quand même. Il y a, voilà, là on commence à...
Bien sûr. Bien sûr. Il y a une usure. Il y a une perte de sens qui nous menace constamment. Il y a aussi quand même, on peut le dire, le sentiment d'avoir été maltraité pendant cette période des fêtes, puisque tout a rouvert sauf les lieux de culture. Je comprends évidemment toujours les motivations du gouvernement. Il y a d'autres pays qui ont pris les mêmes décisions. Simplement, c'est une décision symbolique extrêmement forte. Et même si, on va dire, c'est un acte manqué, ce qu'il révèle de l'inconscient de notre gouvernement m'inquiète. Voilà, les livres considérés comme non essentiels, même s'ils se sont rattrapés après en permettant aux librairies de faire du click and collect, enfin, tout ça raconte quand même un monde qui nous inquiète tous. Et je pense que le théâtre, le spectacle vivant en général, ces lieux de rassemblement, d'émotions collectives, sont en train de reprendre aussi tout leur sens politique, sens politique au sens fort du terme. C'est-à-dire qu'un théâtre dans une ville, un théâtre dans la cité, c'est quand même l'occasion de se réunir pour vivre des émotions ensemble, pour partager des émotions et des idées ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, alors que la situation voudrait qu'on soit tous cantonnés devant nos écrans, cloîtrés chez nous, coupés les uns des autres, eh bien, il va être urgent, il va devenir, pour le coup, essentiel, vital, je crois que c'est le mot, de se retrouver dans des salles de théâtre pour, encore une fois, vivre des émotions et échanger des idées, même si elles sont contradictoires.
Bien sûr, ce sont voilà ce que certains taxent de non essentiels, pour moi sont vraiment nos indispensables. Il y a des, alors on a parlé de résidences de création, de gazettes, il y a des ateliers qui ont cours aussi avec certains membres de l'équipe de création.
Absolument, Penda a amené toute une série d'ateliers, Penda Diouf, pardon, autrice associée, a amené toute une série d'ateliers d'écriture. Il y a un travail encore avec les scolaires qui est mené, parce que ça, on peut se le permettre. Faire, oui. Et, exactement. Et par ailleurs, nous sommes en train, mais ça prend du temps, mais néanmoins, c'est quelque chose dont, quand on l'aura mené à terme, dont on sera très fier, d'imaginer un micro-dispositif, une espèce de micro-théâtre, comme ce qu'on a appelé pour le moment, peut-être provisoirement, mais on aime bien le nom, un théâtre-maton, qui se déplacera dans les lieux comme les EHPAD, les centres pénitentiaires, enfin dans tous les lieux où les publics sont empêchés, comme on dit, c'est le vocable en usage aujourd'hui, et qui leur permettra d'avoir, dans un cadre scénographié, un mini-théâtre encore une fois, un dialogue direct avec un artiste qui sera en ligne, face à un écran, mais en direct, face à eux, pour leur faire mener, à ces publics fragiles ou empêchés, eh bien, des expériences de théâtrales, ou chorégraphiques, ou littéraires. C'est quelque chose qu'on est en train de... Là, on est en train de designer. Après, on va l'envoyer aux ateliers de construction. C'est une structure légère, quoi, une espèce de petite tente, si vous voulez, qu'on va pouvoir déplacer dans des lieux coupés de l'art et de la culture, pour pouvoir, encore une fois, l'amener et travailler sur une relation directe, intime avec des créateurs.
Alors, justement, puisqu'on parle de pouvoir ramener malgré tout, alors, OK, on sait qu'on connaît les limites des visioconférences et autres, voilà, et autres vidéos, etc. Je crois que tout le monde en a ras-le-bol. On a envie de vivant, on a envie de se toucher, on a envie de se respirer. Mais il n'empêche que pour l'instant, on est encore malheureusement tenu à ces écrans. Est-ce qu'il y a des possibilités de voir justement d'assister à des répétitions, à des morceaux de résidence de création, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un lien de cette nature-là?
Alors, on est en train de... Pour le moment, on a maintenu ce qu'on avait développé lors du premier confinement, qui est notre grande évasion. Et l'idée, si vous voulez, c'était de pouvoir produire des objets artistiques qui puissent être vus sur des écrans, mais dont la nature même soit d'être vue sur un écran. Moi, je suis très contre, je fais partie de ces metteurs en scène-là. Voilà, il y a un grand clivage en ce moment entre ceux qui sont pour les captations live, qui estiment qu'il faut pouvoir faire du live stream et quoi qu'il arrive, faire exister ces spectacles à travers les écrans, et d'autres comme moi qui pensent que eh bien, c'est absolument antinomique avec notre art. En revanche, je pense qu'il faut effectivement continuer à proposer des formes artistiques au public, mais des formes qui sont spécialement pensées, conçues pour cette période et cette situation. À titre d'exemple, je peux donner... ce que je suis en train de pratiquer moi en lien avec mon spectacle Nostalgia Express, je me suis amusé comme ça à tourner pour le moment deux clips tirés de deux chansons qui, parmi les 10 qui composeront mon spectacle, et j'aimerais bien au terme des répétitions comme ça proposer une série de clips qui seront donc des objets quoi, autonomes, j'ai envie de dire c'est des clips qui auront leur vie par ailleurs et qui ne seront pas des extraits de spectacle, mais vraiment des objets artistiques en lien avec ce spectacle, mais qui ont leur existence propre. Oui. Donc ça fait partie des propositions qu'on essaye d'inventer, encore une fois, pour ne pas donner au public des succès d'années de spectacle. Oui. Moi, je suis très inquiet quand je vois, par exemple, que certains grands lieux décident donc de faire des captations live. Oui. Je pense que c'est très bien, mais si on est c'est sûr que ces spectacles sont repris par la suite. Oui. Et ce que je sais, c'est ce qui se pratique parfois, c'est qu'on propose aux artistes de remplacer, par exemple, une dizaine de représentations à Paris par une ou deux captations live. Et pour moi, c'est tragique, parce que ça veut dire que pour un spectacle, par exemple, qui n'a pas eu le temps de rencontrer le public, c'est en fait un spectacle mort-né.
Bien sûr.
Parce que le spectacle se construit aussi dans l'échange avec le public, dans la ferveur que le public, ou au contraire, le rejet
du public. Oui, mais il se rôde, il se polit,
il s'inquiète au sens où il se met en mouvement. Je veux dire, une fois qu'on a fini les répétitions, on n'a rien fait, en fait, tant qu'on n'a pas rencontré le public. Là, moi, par exemple, c'est pour tout vous dire, c'est assez étrange, parce que je suis censé faire ma première... On était censé faire ma première le 19 janvier. On va finalement la faire le 20 janvier, puisqu'il y a cette hypothétique date du 20 janvier, qui reste, qui flotte comme ça, mais sans qu'on y croit trop, hein, pour tout vous dire. Et donc, je sais très bien que ce spectacle-là, il sera entre guillemets achevé, c'est-à-dire que j'aurai réglé un spectacle, mais il n'existera pas tant qu'il n'aura pas rencontré un public face à lui. Et ça rend un peu mélancolique et ça crée... Vous demandiez... Ce qu'on ressent, ça peut créer une perte de sens. C'est-à-dire que c'est très difficile pour les acteurs aussi de mobiliser une énergie à vide, de mobiliser une énergie pour se dire, bon, mais à quoi bon, puisque de toute façon, tout ce qu'on pratique, on le fera entre nous, pour nous, ça n'a aucun sens. Et c'est là où c'est là où on s'aperçoit que le geste de création théâtrale, il est éminemment généreux. Et c'est un geste de partage, c'est un geste qui... C'est peut-être le geste artistique le plus généreux qui soit, puisque c'est un geste qui ne peut exister que dans le dialogue avec l'autre. Voilà. Et donc, en ce sens, rien que ça le rend essentiel. Même si on sait très bien que le public des théâtres, c'est une minorité de la population. Cette minorité-là fait l'effort de se déplacer pour partager un moment de culture. Je pense qu'il faut quand même réaliser ce que ça veut dire symboliquement.
Bien sûr. Et puis le développer surtout. Merci beaucoup, Marc, d'avoir été avec nous. Toy toy, comme on dit. Et puis, on vous accompagne. Et vous nous manquez terriblement, toutes et
vous
tous.
Vous nous manquez aussi.
Au revoir.
Au revoir, bonne journée.
Quand même la seule gazette qui informe que les ovnis ont débarqué sur Valence. Rien que pour ça, merci. Alors, quelques informations locales. On a une actualité sur la vaccination en Drôme pour le Covid-19. Alors que les premiers vaccins ont débuté la semaine dernière dans le département du Rhône, c'est au tour du département de la Drôme de s'engager officiellement dans cette vaccination. Celle-ci va concerner les personnes âgées en EHPAD et en unité de soins de longue durée, mais également tous les personnels de santé volontaires de plus de 50 ans ou ceux avec un facteur de risque de développer une forme grave de Covid-19 qui le souhaitent. L'établissement pivot désigné par l'ARS pour le département de la Drôme, c'est le centre hospitalier de Valence qui a donc pour mission de stocker une partie des vaccins du département et de coordonner leur distribution. Il a reçu 4800 doses de vaccins déjà mardi dernier et cette dotation sera complétée par une deuxième identique dans les prochains jours. Alors, où se faire vacciner? Les premiers établissements qui débuteront la vaccination cette semaine sont l'EHPAD Dauphine à Romans-sur-Isère, l'EHPAD Maison de l'Automne à Valence et l'EHPAD La Pastourelle à Pierre-Latte. D'autres établissements pourront rapidement s'ajouter à cette première liste. Et en parallèle, un premier centre de vaccination au sein du CHU de Valence doit ouvrir très prochainement. Par la suite, d'autres sites de vaccination seront déployés rapidement sur la Drôme. Le pilotage de cette vaccination dans chacun des départements d'Aura se fait sous la coordination des préfectures de département et de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Et il nous est rappelé que le premier objectif de la vaccination est de faire baisser le nombre des formes graves de Covid-19, puisque les résultats des études cliniques des candidats vaccins semblent converger pour démontrer un fait principal. La vaccination permet de réduire massivement la mortalité due au virus et à ses formes graves. La stratégie vaccinale nationale et donc régionale repose sur trois grands principes. Le libre choix des patients, ce qui veut dire que ce ne sera pas obligatoire. La prise en charge du vaccin à 100%, ce sera gratuit. Et la sécurité, la vaccination se fera dans le strict respect de toutes les règles qui encadrent l'utilisation des produits de santé dans le pays.
Le libre choix, c'est important et c'est fondamental. Concours de nouvelles. Ah oui, concours de nouvelles. Eh bien oui, les médiathèques de l'Aglo, de Valence-Romans Aglo, chaque année lancent un concours de nouvelles destiné aux 15-20 ans. Pour la 13e édition qui a eu lieu donc en 2020, les écrivains en herbe devaient composer leurs nouvelles autour de la phrase imposée « La peur m'envahit ». Alors ça a été 93 nouvelles qui ont été reçues pour ce concours. Donc c'est plutôt, moi je trouve ça plutôt...
C'est beaucoup, c'est pas mal.
Je trouve ça vraiment chouette d'avoir 93 jeunes gens et jeunes filles qui ont répondu, qui ont envie d'écrire. Le goût d'écrire se retrouve comme le goût de lire. Ce sont 7 jeunes auteurs qui ont été récompensés. Et dont une bourquaine, une jeune bourquaine de 17 ans, Alma Glaise, qui, pour sa nouvelle grand-maman, qui a été un des 4 prix coup de cœur donc, de ce concours de nouvelles. Et on la retrouve tout de suite. Bonjour Alma.
Bonjour.
Alors Alma, tu fais partie de ces coups de cœur, de ces prix coups de cœur, avec ta nouvelle grand-maman. Alors il faut savoir que cette année, comme chaque année, il y a un thème imposé. En fait, c'est une phrase qui est imposée. Cette année, c'était la peur m'envahit. Tu es partie sur un texte. Un peu surréaliste, on pourrait dire, un peu décalé, avec un humour un peu grinçant. est-ce que c'est un univers qui te plaît particulièrement, ou est-ce que c'était un peu un hasard?
J'ai créé beaucoup de nouvelles un peu noires comme ça, parce que j'aime bien, ça me fait rire.
Alma, j'ai dit que tu avais 17 ans, mais tu es déjà en fac, c'est ça?
C'est ça. Je suis en LEA anglais-japonais en première année à Grenoble.
Et alors là, du coup, en ce moment, comment ça se passe? Tu fais que des cours à distance?
Pour l'instant, on est en distanciel encore. Mm-hmm. Peut-être qu'on va retourner en présentiel, mais on ne sait pas encore, en fait.
Donc tu as un an d'avance?
C'est ça.
Tu as fait tout ton parcours scolaire sur Bourg-lès-Valence?
Oui.
Et tu as toujours aimé écrire?
J'ai toujours aimé lire, mais écrire, j'ai découvert cette passion, entre guillemets, en première.
Et de quelle manière?
Justement, grâce à ce concours de nouvelles. Ma mère m'en a parlé et je me suis dit, pourquoi pas participer? Et j'avais gagné un prix coup de cœur aussi cette année-là.
D'accord.
Voilà.
Quels sont tes auteurs préférés ou tes univers préférés en lecture?
J'aime beaucoup Stephen King, mais après, je lis un peu de tout, sauf de la science-fiction, parce que j'aime pas des maths, mais j'aime tout le reste, en fait.
Mais plutôt des choses qui sont un peu frissons.
Ouais.
Un peu frissons et suspense. Mm. Qu'est-ce qui t'intéresse, d'ailleurs, dans ce type de littérature?
Je dirais que c'est la façon dont l'auteur a de nous faire peur avec des choses qui ne sont pas effrayantes, normalement.
Des choses du quotidien qui deviennent...
C'est ça.
Qui deviennent extraordinaires.
Exactement.
Et tu lis depuis toute petite ou c'est venu...
Oui.
D'accord.
Oh là, non, je lis énormément depuis... À maternelle.
D'accord. Bon, en maternelle, rassure-moi, ce n'était pas du Stephen King.
Non, quand même. Non.
Tu fréquentes les médiathèques régulièrement?
Oui, très régulièrement, oui. C'est bien que j'ai plus grand-chose à lire là-bas.
T'as plus grand-chose à lire là-bas?
Tous les livres qui m'intéressaient, je les ai lus.
D'accord. Tu lis combien de livres par semaine?
Ça dépend du temps que j'ai à y consacrer, mais je dirais deux au moins.
Comment tu lis? Quel type de lectrice tu es? Tu lis au fond de ton lit? Tu lis dans la journée?
Je lis quand j'ai du temps, c'est-à-dire à peu près tout le temps. Le matin, je me réveille, des fois je lis, je me lis avant de m'endormir, je me lis quand j'ai 5 minutes de temps libre. C'est vraiment quand j'ai du temps libre.
Qu'est-ce que tu préfères comme position pour lire?
Avachée dans mon canapé.
Est-ce que tu as déjà lu, enfin écouté des livres audio, par exemple?
Non, parce que je trouve ça un petit peu ennuyant, entre guillemets. Je préfère tourner les pages, etc. Je trouve que ça perd du charme du livre.
Bon, alors en lisant en moyenne deux livres par semaine, il n'y a pas que Stephen King, hein, excuse-moi, mais forcément il y en a d'autres. Si tu avais un conseil là aux jeunes qui nous écoutent, si tu avais un conseil, coup de cœur lecture que tu as eu ces dernières années, vraiment des bouquins qui ont compté pour toi, pour quelle que soit la raison d'ailleurs.
Oh là là. Alors je dirais Kiss, dont j'ai totalement oublié l'auteur, mais qui m'avait marqué il y a quelques années.
K-I-2-S?
Oui. C'était une histoire d'adolescent qui avait une histoire d'amour entre deux amis d'enfance.
Kiss de Jacqueline Wilson. Donne-moi un titre de Stephen King qui t'a peut-être le titre de Stephen King qui t'a le plus embarqué.
Je dirais Monsieur Mercedes.
Monsieur Mercedes.
Ouais. C'était une double histoire, en fait. C'était l'histoire d'un policier qui essayait d'arrêter un terroriste et du terroriste, du coup, qui avait agressé des gens dans la rue avec une Mercedes.
D'accord. Les prochains livres que tu as envie de lire ?
Les Narnia. J'ai bien envie de lire Les Narnia.
Les Narnia, eh ben, très bien, on va finir, alors comme quoi il doit rester encore quand même des choses dans les médiathèques à lire,
oui,
pour toi. Est-ce que tu peux nous parler, nous présenter un petit peu la nouvelle qui t'a permis de remporter ce prix?
Alors ma nouvelle, c'est un personnage qui est écrit à sa grand-mère et qui parle d'un peu tout et rien avec elle, mais principalement de la mort. Et d'un enterrement, mais on ne sait pas trop de qui. voilà.
Grand-maman. Donc, ben, bravo, bravo, Alma, d'avoir été lauréate une des lauréates de ces prix coup de cœur. Et puis, ben, on te souhaite beaucoup, beaucoup de réussite dans tes études, et puis plein, plein, plein de bouquins à découvrir et des grands moments de bonheur, le nez plongé dans les livres.
Merci.
Merci beaucoup, Alma. Au revoir.
Au revoir. Une nouvelle information. Aujourd'hui se tient au Luxe la 15e édition des rencontres du pôle Auvergne-Rhône-Alpes de l'éducation aux images. Donc l'événement a lieu toute la journée. Le thème, c'est l'expérience cinéma face à Internet, une problématique vraiment d'actualité. C'est une journée qui est à destination des professionnels de la diffusion et de la médiation cinématographique. Et elle est ponctuée de conférences, de témoignages et de tables rondes. Bien sûr, ça n'a pas lieu directement dans les locaux du Luxe en raison de la crise sanitaire, mais ce sera retransmis en direct sur le Facebook Live du Luxe Rendez-vous, donc sur la page Facebook de Luxe. Alors si ça vous intéresse, cet après-midi, vous pourrez assister de 13h30 à 15h à une table ronde qui s'appelle « Articulation bénéfique entre espaces culturels et digitaux ». De 15h30 à 16h, un focus sur les jeunes, les images et les écrans. 16h à 16h30, un témoignage, l'acide pop et le réseau des jeunes ambassadeurs. Et pour finir, à 16h45 jusqu'à 18h15, la deuxième table ronde, cinéma cherche adolescent.
Dans une célèbre série, sur une des chaînes de grande écoute, un des personnages disait « À table !» Alors je ne hurlerai pas trop dans le micro, et je n'ai pas son talent, mais c'est ce que tu nous proposes tout de suite, Karina.
Oui, je vous propose de parler un petit peu de bonne nourriture qui nous vient du Sud, qui nous vient de La Réunion, en appelant le snack des îles, Samantha Payette, qui tient ce snack et qui se trouve à Bourg-les-Valons, sur l'avenue Marc Hurtin. On l'écoute. Bonjour Samantha.
Bonjour.
Alors vous êtes en direct du snack des îles.
Oui, c'est ça.
Et c'est donc un snack de spécialité réunionnaise.
C'est ça.
Et c'était donc l'idée de vos parents de cuisiner réunionnais pour les bourquins et bourquaines.
Voilà, exactement. En fait, il y a quelques années, on avait déjà un restaurant sur Bourg-les-Valence qui s'appelait Petit Boutique des Îles. Donc voilà, qui après, on avait arrêté cette activité. Et mes parents ont décidé après de réouvrir un petit snack, en fait, quelque chose qui serait peut-être moins lourd en charge de travail. Voilà, donc ils ont décidé de créer ce snack. Pendant quelques années, ils ont travaillé. Maintenant, ils sont à la retraite complète. Et voilà, il fallait prendre une décision et un des enfants devait reprendre et ça a été moi. J'ai une salle qui est mise à disposition, en fait, des clients. Ça reste un snack, hein. Il n'y a pas de service à table. Donc, je leur prépare tout sur un petit plateau et en fait, ils peuvent accéder à cette salle où ils peuvent manger sur place.
Et comment ça se passe pour vous en ce moment?
Très bien. il n'y a pas de souci. Moi, pour moi, en fait, les gens sont quand même habitués en fait, sur le fait que je fais remporter. Donc, ça n'a pas changé vraiment les habitudes. Voilà, après, il y a un petit peu moins de monde que, voilà, en temps normal peut-être, mais ça va. Honnêtement, je n'ai pas à me plaindre.
Bon, ça, c'est une bonne chose.
Voilà.
Et donc, la Réunion, c'est l'île de votre cœur, c'est l'île où vous avez grandi ?
Voilà, c'est ça, c'est l'île où j'ai grandi, c'est, voilà, mes parents sont réunionnais, mes grands-parents, en fait, toute ma famille. C'est une île que j'adore, heureusement. Et voilà, donc ça me tenait à cœur, en fait, de continuer cette activité pour continuer à faire découvrir et voyager les gens.
Mmh.
Voilà.
Surtout...
Donc, voilà, c'est une île super belle qu'il faut à tout prix aller visiter pour ceux qui ne connaissent pas.
Mais on peut déjà commencer par venir au snack des îles en ce moment, quand les voyages
voilà.
sont un peu compliqués. Mais comme ça, on voyage au moins avec la bouche.
Oui.
Et d'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu les plats que vous préparez au snack ?
Alors oui, donc je fais essentiellement, enfin que des spécialités réunionnaises. Hein, je reste sur les recettes vraiment traditionnelles. Voilà, des recettes de mes grands-parents, de mes parents. Je ne change rien. On cuisine essentiellement à base de produits frais et tout ce que je fais, en fait, tout est fait maison. Tout ce que je vends est fait maison. Mmh. Donc, on fait ben, les rougailles et les caries, donc le fameux rougail saucisse qui est la plus grande spécialité à La Réunion. Ensuite, voilà, je fais 5 plats par jour. Donc, le rougail saucisse est là tous les jours parce que, voilà, c'est ce que les gens me demandent le plus, je pense. Et après, il y a toujours au moins une volaille, donc soit un carré de poulet, un carré de canard ou de la dinde combava. Il y a toujours aussi un autre carré de porc. Donc, c'est pareil, hein, il y en a tellement. Je fais carré de porc massalé, carré de porc pomme de terre, carré de porc au cumin. Enfin, voilà, ce sont que des exemples. Je fais aussi toujours un carré de bœuf et un poisson. Toujours un poisson. Donc, le fameux rougail morue que je fais tous les vendredis.
Mmh, ça donne envie.
Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est ben, samoussa, bonbons piment, piment farci, voilà, les bouchons aussi, voilà, qui viennent en rendu et fait tout est fait maison. Ensuite, on fait aussi les pains bouchons et les américains. Alors ça, c'est toujours mieux de commander parce que ça nécessite un petit temps de préparation. Donc, je demande aux clients de m'appeler une vingtaine de minutes avant en général.
Mmh.
Voilà, des achats aussi. C'est une petite salade de légumes aussi très connue à La Réunion.
Et sinon, pour tout, quasiment tous les plats, il n'y a pas besoin de commander. On peut juste venir et se
oui,
servir.
Oui, on peut venir prendre comme ça. Après, en ce moment, c'est toujours bien de commander en avance.
Mmh.
Et voilà, il faut savoir que par contre, si on passe tard le soir, pardon, c'est toujours mieux de réserver son plat si on veut avoir celui qu'on veut. Parce qu'en général, je cuisine le matin pour la journée et c'est sûr que ceux qui viennent très tard le soir, il y a moins de choix en général.
Mmh. Ça se tient. Et du coup, vous tenez toute seule ? Vous faites ces 5 plats par jour
Oui, toute seule. C'est ça.
Waouh, ça doit faire quand même beaucoup de travail.
C'est de grosses journées, mais ça va.
Et vous prendrez quelques vacances pour aller à La Réunion ?
Alors, j'espère pouvoir le faire cet été. Donc, c'est prévu. Mais voilà, ça va être selon les conditions de voyage, si c'est possible ou pas.
Effectivement, c'est un peu compliqué en ce moment.
Ouais.
Et c'est quoi, vous, votre plat préféré réunionnais ?
Ah, mon plat préféré ? Ouais, c'est difficile. J'aime à peu près tout, donc voilà, après je reste un peu comme mes clients, le rougail saucisse, voilà, c'est vraiment ce qu'on aime. Et c'est une valeur sûre, ça c'est sûr, parce que les saucisses en fait, il faut savoir qu'elles sont aussi faites maison. Enfin voilà, c'est mon papa qui me les fait et moi je les cuisine.
Wow.
Donc voilà, ça reste quand même un de mes plats préférés.
Et qu'est-ce qui vous manque de La Réunion ?
Tout, je pense. Le climat, en premier. Voilà, parce que moi, j'adore la chaleur. Donc, oui, le climat, les fruits, l'ambiance et le paysage. Enfin, voilà, tout ça. Et ma famille, évidemment.
Et oui, c'est important, la famille, c'est vrai.
Voilà. Donc voilà, après il me reste que les oncles, les tantes et les cousines. Mes parents sont ici, mes frères et sœurs aussi.
Ça sera bien donc de les revoir, j'espère.
J'espère, oui.
Bientôt.
J'espère.
Merci beaucoup, Samantha.
Merci à vous.
Alors si ça vous a donné l'eau à la bouche, sachez que donc le snack des îles est encore ouvert, vous pouvez y courir. Donc il est ouvert du mardi au samedi entre 11h30 pardon et 14h pour le déjeuner et 17h30 et 20h pour le dîner. Il se trouve au 55 avenue Marcurtin et pour le menu du jour, c'est rougail saucisse fumée, curry de boucan et pommes de terre, poulet sauce d'huître, curry de poisson kombava et curry de bœuf au piment.
Alors, pour vous mettre dans la confidence, on a notre président qui vient m'envoyer un petit mot en disant « Dis-lui que j'arrive, je viens prendre
!» On a une commande, alors.
On a une commande pour, pour Samantha. D'ailleurs, Samantha, c'était Marie-Julie qui en avait parlé aussi l'autre jour. Alors oui, on passe du grand chaud au grand froid, puisque c'est l'activation du plan grand froid qui se fait ce jeudi 7 janvier. Le département de la Drôme connaît une baisse significative des températures aujourd'hui et pour les jours à venir. C'est pour ça que le préfet de la Drôme a décidé d'activer le plan grand froid à compter de ce jeudi 7 janvier, afin de venir en aide aux personnes les plus vulnérables. Ce sont plus de 398 places d'hébergement d'urgence ouvertes toute l'année et des 138 places disponibles actuellement et activées depuis le début de la période hivernale, qui s'étend du 1er novembre au 31 mars, le déclenchement de ce plan grand froid permet la mobilisation d'une trentaine de places supplémentaires et un renforcement des nuitées hôtelières. Il permet également d'étendre les horaires et jours d'ouverture des accueils de jour, de renforcer les équipes de périmètre et les horaires des maraudes sociales. Alors, chaque citoyen et citoyenne est appelé à être attentif à son environnement immédiat et à signaler au 115 toute personne en détresse qui se trouverait à la rue. Le préfet reste attentif à l'évolution des conditions climatiques et ça adaptera le dispositif, bien sûr, en fonction des besoins, a priori en retour à des températures un peu plus clémentes la semaine prochaine. On reste en hiver, mais avec des températures plus normales. Vraiment, soyez prudents. Alors, d'autant plus en ces périodes de crise, on parle de crise sanitaire, mais on parle de crise sociale et on parle de crise économique aussi. On pense à toutes celles et ceux qui ont perdu leur job, pour qui c'est super compliqué de vivre au quotidien, et celles et ceux qui se retrouvent à la rue pour différentes raisons. Il y en a un petit peu plus qu'en conditions habituelles. Donc vraiment, soyons vigilants toutes et tous. Et puis, je vous rappelle que pour la Croix-Rouge, notamment, ils sont toujours en demande de gants, de bonnets, de vêtements chauds, de chaussettes. On n'y pense pas forcément parce que les gants et les bonnets, ouais, on en parle toujours. Alors, les bénévoles, apparemment, ça c'est une bonne nouvelle.
Génial.
C'est que pour les maraudes, vous avez été, il y a eu un vrai élan de solidarité sur la fin de l'année qui fait que pour les maraudes, il y a beaucoup de gens qui sont proposés, qui sont présentés. Et ça, c'est formidable. Mais vraiment, n'oublions pas, ne relâchons pas nos aides. Encore une fois, en termes de chaussettes chaudes, on n'y pense pas nécessairement. Mais tout ce qui est chaud à pouvoir distribuer pendant ces maraudes est le bienvenu. La bonne nouvelle du jour.
La bonne nouvelle du jour.
Alors, la bonne nouvelle du jour, c'est encore une fois, on vous propose de se repasser quelques bonnes nouvelles de 2020 pour se rendre compte que cette année, même si elle a été compliquée, elle a aussi eu de belles choses. Alors, en juin 2020, des indigènes d'Amazonie ont remporté un procès historique contre la déforestation. Effectivement, la communauté indigène des Achaninka, de la forêt amazonienne, a remporté une victoire importante contre les sociétés forestières qui, depuis 1980, donc ça fait quand même un bail, ont déboisé joyeusement et illégalement leurs terres. La tribu des Achaninka devrait être indemnisée à la hauteur de 3 millions de dollars par la société forestière. Ça ne remplacera jamais ce qui a été massacré. Clairement mais pas. Au moins, c'est la reconnaissance du fait que ça n'est que c'est illégal et que la forêt est aussi importante à l'humain que tout le reste. Il est temps pour nous de se dire au revoir pour cette locale du jeudi 7 janvier. Vous pouvez réécouter la locale tout à l'heure à 18h. Vous les retrouvez aussi sur le site internet, sur le www.radiobelv.com. Karina prend soin de mettre, de tenir à jour le site. Vous retrouvez aussi toutes nos émissions, bien évidemment. Tout de suite après cette locale, eh bien, vous retrouvez Recto Verso de Vanessa, qui vous est proposé par Vanessa Longepierre, Recto Verso avec le portrait de Stéphane Londois et de l'atelier du Hanneton. Et puis à 17h, rediffusion de Avec ou sans sucre, 18h, rediffusion de la locale. Et ce soir à 20h15, vous retrouvez La route du blues. On se quitte bien pour cette fin de semaine. On se retrouve, Karina, mardi prochain pour la prochaine locale.
C'est ça.
D'ici là, eh bien, je vous souhaite de bien vous porter, toutes et tous, toi aussi.
Merci, bonne journée à toutes et tous.